Bonjour. Alors, comme vous le voyez, ce n'est que la première partie d'un cours que je finirai la semaine prochaine, puisqu'il a, il y a trop de choses pour être abordées en une heure. Alors, donc, nous avions vu le cours précédent, l'une des séries les plus remarquables du Wakan Roeishu, qui est sur les demeures des immortels, Senka, n'est-ce pas ? Qui est venu nous rappeler l'importance du taoïsme dans le Japon de l'époque de Heian, une importance qui est souvent méconnue, mais qui est indéniable. J'ai rappelé, à travers ce qu'avait fait aussi Bernard Franck, l'existence de témoignages littéraires de l'époque qui concernent non seulement l'intérêt intellectuel et littéraire pour les traditions taoïstes chinoises, mais aussi de réelles mises en pratique du taoïsme opératif, n'est-ce pas, Ren Tanjutsu, autour des méthodes d'obtention de l'immortalité. On sait aussi que ceux qui étaient considérés au Japon comme des taoïstes étaient souvent très éloignés de leurs modèles continentaux chinois et que les mélanges avec les pratiques bouddhiques, par exemple, étaient courants. On pourrait mentionner l'exemple de Enno Gyoja, n'est-ce pas, le fondateur mythique du Shugendo qui associe vraiment des pratiques bouddhiques, des pratiques taoïstes. Qui est considéré plus ou moins comme un sannin, un immortel au Japon. Mais nous ne pouvons pas aller plus avant sur ce sujet, malheureusement. Nous n'avons plus, en effet, que trois cours à consacrer à des séries séparées. Il faut faire des choix très difficiles. Le dernier cours étant consacré à une récapitulation, une conclusion de tout cela. Il semble en tout cas évident qu'il faille s'arrêter aujourd'hui à celle donc, qui donne son intitulé au cours, le Butsuji. Nous reviendrons dans un instant sur ce thème. Mais rappelons tout d'abord que la série, cette série Butsuji, suit immédiatement une autre série portant aussi sur le bouddhisme, Yamadera, ou Temple de montagne, qui fait pendant à la série vue la semaine dernière sur les demeures d'immortels. Vous aviez Senka d'un côté, ensuite Yamadera. On voit tout de suite la corrélation et encore une fois cette espèce de souci d'équilibre du Wakan Roeishu, sur les mêmes thèmes, de montrer plusieurs facettes, encore une fois, dans la perspective des Naikyo Gekyo, n'est-ce pas, dont parlait le préfacier, Mumyo, n'est-ce pas, c'est-à-dire les thèmes bouddhiques, les doctrines bouddhiques, les doctrines non bouddhiques. Ici, c'est tout à fait évident. Donc sur le Yamadera, nous n'aurons pas le temps de nous y arrêter, mais il est difficile de ne pas donner, justement comme exemple de la manière de Kinto, le compilateur du Wakan Roeishu, les deux wakas qui terminent cette série Yamadera, tant ils sont typiques dans leur enchaînement d'un procédé dont on pourrait chercher dans le bouddhisme l'origine ultime, et où l'on voit les deux affirmations contenues dans chaque poème s'annuler l'une l'autre. Mais où l'on peut aussi discerner, dans la touche apportée par le dernier, une note d'humour. Ça, je pense que c'est assez typique de Kinto. Pour cette annulation, auto-annulation des poèmes, en quelque sorte, nous en verrons tout à l'heure, très brièvement, bien sûr, une raison dogmatique très précise, un fondement dogmatique très, très précis. Mais on peut le voir ici, et nous l'avions vu aussi la dernière fois. On me permettra de ne pas insister sur les auteurs et la source des poèmes et de n'en donner que la traduction. Ça n'a pas trop d'importance, comme vous le savez, c'est l'enchaînement qui compte. On verra d'ailleurs que c'est simplement leur présence et leur position donc, qui importe ici. Le premier poème est une évocation du temps qui passe, comme nous en avons déjà vu de nombreux exemples et comme nous en verrons d'autres. Vous l'avez ici, n'est-ce pas ? Yamadera no, donc « au temple de montagne ». Chaque fois que résonne la cloche du soir, nous entendons avec tristesse qu'une journée est passée. Bien évidemment, c'est le thème de l'impermanence que nous retrouverons à la fin du recueil. Mais aussitôt après, voici le dernier poème qui arrive. Vous l'avez aussi ici. Donc, qui s'énonce en ces termes. Qui a au pied des arbres fait sa demeure, tout naturellement, voici qu'il en vient à contempler les fleurs. Ce sont des vers de Mirliton, là je ne l'ai pas fait spécialement pour cela, mais bon, ça se trouvait. Mais vous voyez bien que ce poème de l'empereur Cazin, donc qui est mort en 1008, rappelle que même pour le moine qui a choisi de quitter le monde, voire ici pour l'ermite bouddhique qui vit seul au pied d'un arbre, la beauté de la nature est impossible à ignorer et vient le replonger dans l'univers du visible. Ido, n'est-ce pas, puisque c'est n'oubliez pas que c'est le terme le plus général qui désigne l'attrait du monde, l'attrait presque pécamineux, ce qui va vous maintenir dans le cycle des morts et des renaissances. Mais ici, c'est un rappel sur le mode désabusé de la difficulté de s'arracher pleinement au monde phénoménal, et une sorte d'ailleurs d'acceptation de ce monde. Cela est cependant une lecture au premier degré, car si nous poursuivons notre lecture et abordons la série suivante, nous allons constater que le point de vue peut changer du tout au tout. C'est, comme vous le verrez, donc sur le statut même de ces poèmes comme affirmation. Donc, je l'ai dit, cette série est placée sous l'intitulé Butsuji, que l'on pourrait lire d'ailleurs Hotoke no Koto, si vous voulez, les choses de Bouddha, en lecture kun, en lecture explicative, lecture qui a au moins le mérite de suggérer l'ampleur des sens possibles de ce terme. Il serait d'ailleurs peut-être plus sage, si nous devions traduire cette en-tête, d'en rester à cette traduction, qui laisse au lecteur le soin d'en apprécier les diverses nuances possibles. Nous pouvons néanmoins les ramener, ces nuances, à deux principales. Commençons par celle qui est la plus répandue dans la littérature générale, c'est-à-dire non spécifiquement bouddhique, et qui est d'ailleurs le sens dans lequel il est habituellement pris en japonais moderne. Il s'agit du rituel bouddhique, plus ou moins synonyme du terme hōji, n'est-ce pas, nori no koto. Bon, je reviendrai dans un instant sur le terme jin, et plus spécialement sur ce qui concerne les rites funéraires. C'est le sens que l'on trouve dans un texte aussi célèbre que le Tsurezu de Gusa, par exemple, n'est-ce pas, qui est bien plus tardif que ce que nous avons ici, puisqu'il a été rédigé vers 1330, n'est-ce pas. Bon, vous connaissez ce texte très connu de Urabe Kenko, qu'on a parfois comparé à Montaigne en France. Bien, c'est très différent, mais ce sont des petites notices. Et sur l'une de ces notices, nous avons ici cette notice qui est tout à fait typique du sens habituel, je dirais, de Butsuji. Vous voyez, Shito ni okurete. Ce n'est pas je suis arrivé en retard, n'est-ce pas? Un ami est mort avant moi, n'est-ce pas? Je suis en retard sur sa mort, en quelque sorte. Je reste derrière lui. Donc, Shito ni okurete, Shizukunichi no Butsuji ni, Arushijiri o Shoji Haberishi ni, Seppo imijikushite, Minabito, Namida o Nagashikeri. Donc, vous voyez le rituel bien connu, la cérémonie des 49 jours après le décès, c'est qualifié de Butsuji. Ici, c'est le sens tout à fait normal. Donc, à la mort d'une personne, pour la cérémonie du 49e jour, j'ai invité un saint homme, un moine, qui a fait un sermon d'une telle ferveur que tout le monde en versait des larmes. Enfin, bon, ça n'a pas. Je vous donne simplement ici comme exemple cette acception courante de Butsuji. C'est là aussi ce sens qui vient en premier à l'esprit lorsque l'on considère ce titre de Butsuji dans l'enchaînement des titres du Roeshu. Nous avons d'abord Yamadera, ensuite Butsuji, ensuite So, ensuite Kankyo. Donc, on pourrait, c'est-à-dire donc les temples de montagne, après le temple viendrait le rituel du temple, les rites du temple, ce serait tout à fait normal. Puis les moines, So, la communauté bouddhique qui assure ces rites. Puis ensuite Kankyo, donc la retraite. D'un côté, vous auriez la vie liturgique, de l'autre, la vie érémitique. Ce serait donc assez naturel de prendre Butsuji au sens de liturgie, au sens ancien de liturgie, n'est-ce pas, qui est service du culte. Et d'ailleurs, le fait que les commentateurs modernes ne s'attardent pas à expliquer le terme même de Butsuji, malgré tous les abondants commentaires, signifie probablement qu'ils le prennent eux aussi dans ce sens. Il en existe cependant un autre qui, s'il est moins répandu dans les textes généraux, c'est-à-dire littéraires et populaires, n'en est pas moins connu de tous. Un sens qui est clairement répertorié encore à présent dans les dictionnaires, c'est celui de « conduite de Bouddha », que l'on pourrait traduire aussi par « œuvre de Bouddha », au sens où l'on parle par exemple d'opus Dei. Ce n'est pas tout à fait la même chose, vous en doutez bien, mais au moins pour le sens de opus, ça serait cela. Il s'agit alors de la conduite que montre un Bouddha dans le monde, un Bouddha ou un Bodhisattva. C'est bien sûr une activité salvifique qui consiste à sauver les êtres, mais non pas à les sauvant au sens où nous pourrions l'entendre communément, c'est-à-dire à les soulager directement de leur souffrance matérielle, immédiate. Certes, cela, les Bouddhas et Bodhisattvas le font aussi, mais leur activité essentielle, celle qui est véritablement efficace et fructueuse parce qu'elle s'étend bien au-delà du soulagement immédiat, c'est de faire aux êtres le don de la loi. Le texte bouddhique fondamental de l'époque de Heian, le Sutra du Lotus, le Hokkyo, est la source scripturaire principale pour comprendre cette acception du terme Butsuji. Disons d'abord qu'il se présente dans le sutra sous deux formes, deux variantes, qui sont dépendantes l'une de l'autre. La première, qui survient en premier justement dans le texte, dès le chapitre 2 sur les expédients salvifiques, le Hobenbon, est d'ordre très général. Vous le voyez ici, n'est-ce pas, c'est la citation de seconde ligne, Shobutsu Seizon, Tada Ichidaiji Ichidaiji no Innen Omote ga yueni Yoni Shutsugensu. Les éveillés, les vénérés du monde, n'apparaissent au monde qu'en raison d'une unique grande œuvre. Cette unique grande œuvre, Ichidaiji, consiste en la célèbre formule ouvrir, montrer, que je ne l'ai pas mis ici, mais c'est ouvrir, montrer, faire comprendre, faire pénétrer, c'est-à-dire kai ji go niu, kai hiraku, ji shimesu, go satoraseru, et niu ideru, n'est-ce pas, ideru, irashimu. Donc c'est donc ouvrir, montrer, faire comprendre et faire pénétrer les êtres dans le savoir et la vision de Bouddha, Butchiken, ce caractère ici, c'est une vision et un savoir et une vision du monde qui est propre au Bouddha, éventuellement au Bodhisattva. Ça correspond tout à fait à un terme sanskrit qui est Buddha Jnana Darshana, qui est la prérogative des Bouddhas et que l'on trouve spécialement les allusions dans le Sutra du Lotus à cette sagesse en quelque sorte opérative du Bouddha sont très nombreuses. Je profite pour vous dire que je n'ai pas parlé de la traduction, enfin du terme sanskrit dont Butsuji est la traduction, parce que c'est un terme qui n'est pas fixe en sanskrit. Vous avez plusieurs formes du verbe kar, n'est-ce pas, qui veut dire faire. Donc vous avez Buddha Karaniya, Buddha Kritya, Buddha Kara, Buddha Charya aussi. Tout cela peut se traduire par Butsuji. Donc c'est vraiment c'est à partir du sino-japonais qu'il faut qu'on voit ce terme. Donc le terme de Ichidaiji n'apparaît que dans ce passage du Sutra du Lotus. Mais nous avons aussi le mot Butsuji dans ce même sutra, qui en est voisin par la forme, est utilisé dans différents chapitres du sutra dans un contexte plus précis qui montre une différence marquante avec Ichidaiji. On peut toutefois montrer qu'il s'agit simplement d'une différence de degré et que Butsuji est dans le prolongement de Ichidaiji à un niveau plus phénoménal. Il s'en trouve sept occurrences dans le sutra du Lotus, mais je n'en présente ici que trois qui concernent directement, nous allons le voir, cette série poétique du Roeshu. La première se trouve au chapitre 8, n'est-ce pas, les 500 disciples qui reçoivent l'annonciation, Gohyaku Deshi Jukihon, où est décrite l'activité d'un bodhisattva qui s'appelle Plénitude, n'est-ce pas, Furuna, l'un des grands disciples du Bouddha qui se consacre à la prédication du Sutra du Lotus. Il use d'expédients salvifiques, de Hoben, notamment en se faisant passer pour un auditeur shōmon, n'est-ce pas, c'est-à-dire un auditeur, ce n'est pas un moine, ce n'est pas un religieux, un bodhisattva du grand véhicule, c'est un représentant de ce que le Sutra du Lotus appelle le petit véhicule. Donc il est mieux reçu par son entourage et il peut plus facilement communiquer aux autres la vérité presque scandaleuse du Sutra du Lotus. Enfin, je vous répète simplement le sutra, n'est-ce pas. Et le texte que vous avez là dit la chose suivante. Il convertit de surcroît, donc Fuluna, d'innombrables quantités d'hommes qu'il établit dans l'éveil complet et parfait sans supérieur, afin de purifier sa terre d'éveillé. Il mène constamment la conduite d'éveillé et convertit les êtres par son enseignement. Voyez, Ijo Butsudoko, Sono Butsudoo Kyoshimen Natameni, Kyoku Sen Natameni. Donc c'est purifier sa terre de Bouddha. Et vous avez ce terme que vous avez au milieu de la citation, ce que j'ai traduit par l'éveil parfait sans supérieur, complet parfait sans supérieur, c'est Anokutara Sammyaku Sambodai. Nous le reverrons tout à l'heure, c'est pour ça que je vous le donne. Donc c'est l'œuvre de Bouddha, la conduite d'éveillé, et donc ici la pratique de Bodhisattva, déployant les expédients salvifiques pour les êtres, tout en préparant pour eux-mêmes leur future terre de Bouddha. Vous savez que c'est ainsi qu'on résume la conduite de Bodhisattva. Jigyo Keta, il pratique pour soi-même et il sauve, il convertit les autres. La seconde citation, tout aussi pertinente pour notre enquête, se trouve à l'un des plus importants chapitres du Sutra du Lotus, le chapitre 16, la longévité de l'ainsi venu, n'est-ce pas, le Nyōraiju Yōhon. Ne revenons pas ici sur le message essentiel qui est révélé dans ce chapitre, ça nous ferait passer beaucoup trop de temps. Et nous voyons qu'il y a ici le terme de savoir et vision de Bouddha, Butchiken, qui était lié au terme de Ichidaiji tout à l'heure, réapparaît ici avec en lien avec Butsuji, l'œuvre de Bouddha, ce qui montre la continuité entre les deux termes. Alors la citation commence par excusez-moi, je vais voir si. Voilà. Bon, alors je vous dis d'abord ce qui n'est pas ici, ce que je. La phrase, le passage commence ainsi. L'ainsi venu a un savoir et une vision des aspects des trois mondes, donc le Butchiken, n'est-ce pas, conforme à la réalité. Il n'y a ni naissance, ni mort, ni retrait, ni émergence. Personne pour résider au monde, ni passer en disparition. Et voici enfin le passage que vous avez ici, et la phrase la plus importante. De tels phénomènes, l'ainsi venu les voit clairement et sans erreur. Parce que les êtres ont toutes sortes de racines, de désirs, de pratiques, de notions et de discriminations, il veut les mener à produire les racines de bien et leur prêche toutes sortes d'enseignements par une quantité. Alors, c'est ici, vous avez ici la deuxième ligne avant la fin. Nyakan no innen hiyu gonji shushu no seppo omote. Donc, parce que les êtres ont. Voilà, il veut les mener à produire des racines de bien, leur prêche toutes sortes d'enseignements par une quantité de relations, de paraboles et de locutions. Jamais encore la conduite d'éveillé qu'il a mise en œuvre n'a été, même un instant, abolie. Nous voyons ici que l'œuvre de Bouddha, Butsuji, est mise en relation avec les histoires, les relations, innen. Innen, je traduis en français par relation parce que ça joue exactement sur les deux mots, les mêmes sens qu'en français. Ce sont les liens causaux, in, les conditions premières, en, les conditions secondaires. Innen, c'est l'enchaînement de ces causes et conditions qui amènent la production de tel ou tel phénomène, mais aussi la production de tel ou tel événement. Et c'est en même temps les histoires. Les histoires, vous savez que le Sutra du Lotus se divise, enfin, il y a beaucoup de choses, mais les parties narratives du Sutra du Lotus sont soit des paraboles, ce qui vient après, hiyu, n'est-ce pas, c'est tatoe, c'est-à-dire parabole ou comparaison, métaphore ou comparaison, et puis des relations, des innen, n'est-ce pas, lorsque le Bouddha parle de la vie d'un bodhisattva comme Fuluna tout à l'heure. C'est pas, la vie de Fuluna est montrée depuis ses origines, sa conversion, jusqu'à son futur état de Bouddha. Là, c'est une relation. Et ce sont donc deux termes tout à fait liés au troisième, Gonji, n'est-ce pas ? Donc les locutions, les paroles et mots, tout cela résume Innen et Hiyu, et Gonji est tout à fait rapprochable, et on l'a vu d'ailleurs utilisé dans le même sens que le mot de Bunshi que nous avions vu il y a deux cours, c'est-à-dire la littérature, les belles lettres et les dont nous avons vu qu'il était pratiquement équivalent en japonais de Kotonoha, c'est-à-dire de langage. La troisième citation est proche de la première, et c'est pour cela que je la donne ici, non par attachement à la redondance, mais pour montrer que par deux fois, le terme de Butsuji, d'œuvre de Bouddha, se trouve employé avec un autre mot. Cette citation se trouve au 27e et avant-dernier chapitre du Sutra du Lotus, qui est la conduite originelle du roi ornement sublime, Myoshogon no Honjihon, et voici cette citation. Donc, que ce soit un fils de bien ou une fille de bien, c'est parce qu'il aura planté des racines de bien qu'il trouvera, d'existence en existence, des amis de bien capables de faire œuvre d'éveillé et de leur donner révélation, enseignement, profit et joie, ainsi que de les faire entrer dans l'éveil complet et parfait, sans supérieur. Encore une fois, Anokutala Sammyaku Sambodai. Donc, l'œuvre de Bouddha est liée à la mise en pratique des expédients salvifiques, dont les plus fondamentaux sont effectués à l'aide de la parole. C'est toute l'activité liée à la prédication de la loi, Seppo, dont le but ultime est la révélation du lotus, qui mène à l'éveil parfait sans supérieur. Retenons ce terme, donc, Anokutala Sammyaku Sambodai, qui résonne de façon un peu rabelaisienne en japonais. Nous le retrouverons plus tard, et plus spécifiquement, la semaine prochaine, vous verrez pourquoi je tiens à partir de cela, parce que nous allons y retomber dans les derniers poèmes. Il est en conséquence nécessaire d'avoir à l'esprit ce second sens, en réalité le sens premier de Butsuji, si nous voulons comprendre la dynamique de la série qui porte ce titre. Nous en tenir au sens habituel de rituel bouddhique ne peut qu'entretenir l'incompréhension. L'importance de cette série est soulignée par le grand nombre de poèmes qu'elle comporte, pas moins de 17, ce qui en fait sans doute la plus longue série du recueil, dont 13 poèmes de style chinois et 4 waka, de langue japonaise. Cette richesse nous oblige à les expliquer plus brièvement encore qu'à l'ordinaire, mais malheureusement ça ne suffira pas pour une heure de cours. Et là encore, nous sommes obligés de les présenter, nous ne pouvons pas les sauter, parce qu'il faut les présenter un par un pour restituer l'enchaînement dans toute sa subtilité. La série n'est pas singulière que par sa longueur. La première chose qui frappe lorsqu'on l'aborde, c'est la citation initiale. Nous avons vu jusqu'à présent que chaque série était ouverte par un fragment poétique, le plus souvent de Pochuyi, de Hakkyoi, donc Hakku Rakuten, suivi par le grand ami de Pochuyi qui était Yuan Zhen, Genshin, ou bien un autre poète chinois, comme nous avons vu la dernière fois. Très rarement un poète sino-japonais. Cette série sur l'œuvre de Bouddha est exceptionnelle en ce qu'elle s'ouvre sur une citation d'un traité bouddhique. C'est un texte que nous connaissons bien, au moins par son titre, car nous l'avons déjà vu à plusieurs reprises surgir dans les thèmes poétiques abordés il y a 2 ans. Nous n'avons pas manqué de rappeler combien ce traité, la somme de quiétude et de contemplation, le makashikan en prononciation japonaise, muho juguan en chinois, n'est-ce pas, bien sûr fondamental dans la scolastique Tendai, était aussi connu en dehors des cercles monastiques et faisait partie du bagage intellectuel des lettrés de Heian, d'autant plus qu'il était considéré comme le plus haut niveau de l'herméneutique du Sutra du Lotus. C'est un texte éminemment scolastique, donc, mais en même temps, comme son titre l'indique, makashikan, la somme de quiétude et de contemplation, et vous savez que dans les textes du Tendai de l'époque, donc de l'époque de l'auteur, de Chiyi, que nous allons voir tout à l'heure, Shikan est utilisé comme synonyme de zen. C'est absolument indiscutable dans l'œuvre de Chiyi. Donc on pourrait presque dire la somme de méditation. Je n'entre pas dans les détails de ces pratiques, mais qui sont donc dans ce qu'on appelle le Tendai Sandaibu, les trois grands textes, la trilogie du Tendai, n'est-ce pas, comme le disait Jérôme Ducor, le Makashikan est considéré comme le texte le plus élevé et qui est censé livrer les arcanes de la méditation. Donc, du point de vue formel, nous remarquerons que le fragment tel qu'il est inséré, je vous le donnerai un peu plus tard, voilà, c'est comme ça qu'il se présente, n'est-ce pas ? Vous voyez qu'il se présente un peu comme sous la forme d'un fragment poétique. J'y reviendrai tout à l'heure. Mais il est tiré en réalité de cela. Du point de vue formel, nous remarquerons que le fragment tel qu'il est inséré dans le Roeishu est légèrement remanié afin de lui donner une allure poétique. Le mieux est sans doute de donner tout d'abord le texte tel qu'il apparaît dans la somme de contemplation. Je vous le donne ici, je ne mets pas de kundoku, je vais le lire lentement et je vous invite à suivre sur le kambu, n'est-ce pas ? Le grand compatissant, Daishi, c'est-à-dire le Bouddha, a pris en pitié tous ceux qui n'ont pas entendu la loi. Il en est comme lorsque la lune s'est cachée derrière les chaînes de montagne. Chosen ou Jiusen, ça veut dire plutôt les montagnes accumulées, mais je traduis par chaînes de montagnes, c'est les montagnes qui sont de plus en plus hautes, n'est-ce pas ? Donc, il en est comme lorsque la lune s'est cachée derrière les chaînes de montagne. L'éventail que l'on brandit en donne une idée. Ou lorsque le vent s'arrête dans l'éther, secouer un arbre enseigne ce qu'il est. Les hommes actuels ont l'esprit obtus. La vision mystique leur est pénible. L'œil cède de la forme pour exercer ses facultés. Et avoir recours à un texte est plus aisé. Mais si l'on trouve dommageable d'être enfermé dans un texte, il sera nécessaire de se rendre compte que le texte est non-texte. C'est pas Hibun. C'est exactement le principe que nous avions tout à l'heure et que nous avons vu la dernière fois aussi dans la série sur la langue, justement. Je reviendrai là-dessus. Donc, il sera nécessaire de se rendre compte que le texte est non-texte. C'est presque du Derrida, n'est-ce pas ? En saisissant que tous les textes ne sont ni texte ni non-texte, on sera capable d'obtenir tous les niveaux d'intelligence sur un seul texte. C'est en ce sens que nos trois textes constituent une sorte d'accès à l'un. Ce passage appartient en fait à la préface de la somme de contemplation, la préface qui est l'œuvre d'un moine qui s'appelle Guanding, c'est-à-dire Kanjo en japonais, qui est le disciple de Chingyi. Mais cela n'a pas d'importance pour notre propos. Nous avons, grâce à cette citation, une idée de la subtilité de la scolastique Tendai, et nous ne nous arrêterons ici qu'à l'essentiel. Bon, par exemple, il n'est pas facile d'entrer dans le détail de ce que sont les trois textes ici, mais nous le laisserons dans le mystère pour l'instant. Le sens général est clair. Les êtres humains n'ont pas accès à la loi en sa perfection. Le Bouddha, par compassion, leur a donc remis les textes qui exposent cette loi. Mais ce ne peut être qu'un pis-aller, comme montrer un éventail pour évoquer la lune, alors que celle-ci s'est cachée derrière les montagnes. Ou bien secouer un arbre, lorsqu'il n'y a pas de vent, pour évoquer l'effet du vent. Enfin, il ne faut pas que ce soit un arbre trop gros, bien sûr. Et évoquer l'effet du vent et montrer par là ce qu'est le vent. Tout cela parce que les hommes actuels ne sont plus capables de vision mystique. Remarquez le terme utilisé ici par le Makashikan, la somme de contemplation. C'est le terme que vous avez en avant-dernière ligne, Gen-nan. On se souviendra peut-être que ce n'est pas la première fois que nous le rencontrons. Il était utilisé dans la rhapsodie sur l'art littéraire de Lu Sheng, Liku Shiko, n'est-ce pas, le Bun no Fu, dans une phrase que François Martin avait ainsi traduite, je répète cette phrase, le poète se met au beau milieu du monde pour observer les choses dans tout leur mystère. En ces âges heureux, le poète pouvait accéder à la réalité et en rendre compte dans l'acte poétique, cette réalité se livrant dans la contemplation de la nature. Ce n'est sans doute pas ce qu'avait Guanding en tête, mais nous voyons encore une fois à quel point le hors-texte est important dans ces citations fragmentaires, puisqu'il fait réponse, ces deux Gen-nan que nous avons vu aussi hors-texte lors de la citation d'Ikushiko, eh bien nous le voyons aussi encore caché dans la citation du Makashikan. C'est un terme relativement rare, donc leur apparition dans ces deux textes n'est pas par hasard. Et qu'avons-nous dans ces images de l'éventail et de l'arbre secoué, sinon des métaphores ? le même terme sino-japonais que pour parabole hiyu, que nous avons vu tout à l'heure, qui apparaissait tout à l'heure aux côtés de locution de gonji, dans notre seconde citation du lotus, pour illustrer le terme de butsuji. Il est sans doute superflu d'ajouter que le lien est précisément établi entre les deux textes. Et n'oublions pas que la somme de contemplation est un commentaire du sutra du lotus, grâce au caractère yu, n'est-ce pas, hiyu, tatoe, qui se trouve aux deux endroits. Eisai, notre commentateur favori, notre commentateur de sans doute du XIIIe siècle, et du commentateur du Wakando Eishu, précise que la lune que l'éventail évoque est non pas la pleine lune, mais la lune en croissant, Katawarezuki. Ce faisant, il s'appuie en le simplifiant sur le commentaire d'un ancien, Kojin, qui est en réalité le grand commentateur du 8e siècle, Tannen, Zhanzhan en chinois, Tannen, le sixième patriarche de l'école Tendai, n'est-ce pas? Je poursuis en reprenant le commentaire de Eisai, qui lui-même reprend Tannen, parce qu'il le simplifie de façon suffisamment pratique pour nous permettre de rapporter ses propos sans trop nous y appesantir, ce qui prendrait trop de temps. Donc, voici ce que dit ce commentaire. « Sans trêve, le grand compatissant, dans l'infinité de sa sagesse habile, emprunte des comparaisons faciles à comprendre pour le monde. « Seken ige no tatoe » Vous avez tout cela ici. « Pour manifester, arawashi tamaishi, le principe extramondain difficile à comprendre, shusse nange no kotowari. » Un ancien l'a ainsi écrit. La lune de la nature véritable éternelle, Shinjōshō no tsuki, s'étant cachée derrière les montagnes des passions, Bonno no yama, on brandit l'éventail des comparaisons circonstancielles ou phénoménales, Gonhi no ogi, pour révéler, Arawasu, la lune de la réalité, Jisō no tsuki. Quand le vent de la doctrine au son parfait, Ennongyō no kaze, s'est arrêté, la nature de loi, Hosho, est déserté et l'on agite l'arbre des expédients, Hoben no ki, pour enseigner le vent du véhicule unique, Ichijo no kaze. Voyez ce qu'un moine voit derrière cette citation ici. Il est donc évident que par cette citation, Kinto remet la série œuvre de Bouddha, Butsuji, dans la même perspective que celle qui portait sur Bunshi, et que c'est encore une fois le langage de la littérature en même temps que l'acte littéraire, qui est au centre de cette série. Et voyez en même temps, à la lumière de ce passage de la somme de contemplation, combien le dernier waka de la série Bunshi se resitue dans la perspective bouddhique qui semblait lui manquer. Ce dernier waka, n'est-ce pas, je l'avais mis ici, je vous le rappelle, n'est-ce pas, Itsuwari no nakiyo nariseba, Ikabakari, Shito no koto no ha, Ureshikari karamashi. Si c'était un monde où il n'y avait pas de dissimulation, combien m'aurait été joyeux d'entendre les paroles de cet homme, c'est-à-dire de mon amant, n'est-ce pas? Donc, ça se resitue bien dans cette perspective bouddhique qui semblait lui manquer, car, comme le dit le texte, il est nécessaire de se rendre compte que le texte est non-texte, il s'annule, n'est-ce pas? C'est exactement comme son rôle à la fin de cette série sur le langage. Un texte doit s'annuler comme texte si son message doit être saisi correctement. Une dernière remarque qui n'est pas sans importance. Nous sommes étonnés de voir une citation provenant d'un traité scolastique au bon milieu d'une anthologie de vers chinois. Mais comme vous le voyez, alors que le passage du traité que nous venons de voir est en prose, la citation telle qu'elle apparaît dans les meilleurs manuscrits du Loeishu est remaniée de façon à se présenter comme quatre vers de quatre caractères, au milieu desquels est insérée la particule rythmique « si », n'est-ce pas, « ke », c'est-à-dire, vous l'avez ici en la première ligne du vocabulaire, n'est-ce pas? C'est-à-dire, elle est typique des poèmes anciens, n'est-ce pas? Des élégies du pays de Chu, n'est-ce pas? Les fameux Chu Tzu, le livre des Odes, le Shikyo, et même dans le Doto Kyo, n'est-ce pas? Le Tao Te Ching aussi. Et surtout, c'est devenu ce caractère « ke » qui ne veut rien dire, n'est-ce pas ? C'est juste un caractère rythmique qui indique la coupure. On pourrait le traduire par une sorte d'exclamation. Mais c'est devenu typique du style des rhapsodies, des fous. Ce qui fait que le Esquinto, je ne sais pas, il se peut que ce soit déjà quelqu'un qui l'ait fait pour présenter cette citation de façon à ce que de façon à ce qu'on puisse en faire par exemple une calligraphie sur un paravent. Ça pourrait d'ailleurs un paravent orné de motifs d'éventail, comme on en a, puisque c'est ici. Mais c'est un remaniement, donc de transformation en texte littéraire d'un texte purement scolastique. Donc c'est ce que nous avons dit tout à l'heure, n'est-ce pas ? Lorsque la lune se cache derrière les montagnes, on brandit un éventail pour faire une comparaison, vous voyez, tatoe, n'est-ce pas ? Qu'on lit satosu ici, c'est lu satosu dans cette citation, mais c'est bien le caractère yu de hiyu, n'est-ce pas, qui est tatoedu, tatoeu en classique. Donc c'est une métaphore et une comparaison physique de la lune. Et lorsque le vent s'est arrêté dans le ciel ou dans l'éther, n'est-ce pas, on secoue un arbre pour kore o oshiyu, pour enseigner aux gens ce qu'est le vent, c'est-à-dire ce qu'est l'action du vent. Nous pouvons peut-être d'autant mieux admettre que c'est à Quinto que nous devons ce remaquillage, que c'est certainement lui qui a ordonnancé la succession des fragments. Et nous pouvons encore une fois d'autant mieux admirer ce coup audacieux qui donne en réalité sa pleine légitimité doctrinale parce qu'il donne sa pleine légitimité doctrinale à la seconde citation et qui lui fait reprendre l'enchaînement normal puisque cette seconde citation est de Pochuyi. Nous avons vu déjà, nous l'avons déjà vu, n'est-ce pas, je ne vais pas trop m'y attarder, nous avons vu combien elle est importante dans la conception que les Japonais se sont faites de la création poétique dans le cadre de la doctrine bouddhique. Puisse l'œuvre d'écriture, je vous donne la traduction, puisse l'œuvre d'écriture profane que j'ai faite en la présente existence, cette faute que sont les propos fous et les paroles spécieuses de la poésie, Kyōgen Kigyō, ou bien Kyōgen Kigo, comme on le lira plus communément, c'est ici qu'apparaît cette expression, n'est-ce pas ? Donc, cette faute que sont les propos fous et les paroles spécieuses de la poésie, se retourner pour devenir dans les existences, se renverser, s'inverser, comme l'inversion des valeurs, n'est-ce pas ? Se retourner pour devenir dans les existences futures, cause de louange au véhicule de Bouddha et condition de mise en branle de la roue de la loi. Fin de citation. Nous avons vu comment J.N. avait repris la dernière phrase dans la postface qu'il a écrite pour sa centurie de poèmes transposée du Hakushi Monju, donc des œuvres de Pochuyi. Et nous ne revenons pas sur son rôle dans les conceptions du rapport entre bouddhisme et création littéraire au Japon. Nous retiendrons simplement que Eisai se montre décidément bon connaisseur du corpus doctrinal du Tendai, car il rapproche le vœu de Pochuyi d'un autre texte de Tendai Daishi, du maître du Tendai, qui est le premier des Tendai Sandaibu, de la trilogie du Lotus, ce que l'on peut traduire par les sentences de la fleur de la loi, Hokkemongu, c'est-à-dire les sentences du Sutra du Lotus, qui est une sorte de commentaire littéral du Sutra du Lotus, ad literam, comme on aurait dit au Moyen-Âge. C'est un commentaire segment de phrase par segment de phrase du Sutra du Lotus, donc le plus primaire en quelque sorte, c'est une sorte de propédeutique à la compréhension du Sutra du Lotus. Après cela, on lit le second traité de Tendai Daishi qui s'appelle le Gengi, n'est-ce pas, Hokke Gengi, c'est-à-dire le sens mystique du Sutra du Lotus, et nous finissons par le Makashikan, la somme de contemplation. Alors donc c'est une expression qui vient de ce premier traité de la trilogie du Lotus où nous trouvons une expression donc qui est comprise dans la tradition Tendai comme le prolongement de l'expression Kyōgen Kigyō. C'est ce que je vous donne ici. Le premier caractère, c'est le caractère, les trois shika, n'est-ce pas, les trois serres, c'est le caractère complexe pour so, qui veut dire donc somatsu no so, n'est-ce pas, ce qui est grossier, ce qui n'est pas subtil. Donc on peut lire cela, Sogon Kyu Nango Kaiki Daichigi, donc Sogon Oyobi Nango, donc les paroles rudes et les propos rudes et les molles paroles, ou raffinées ici, convergent tous vers le sens primordial. Il s'agit en réalité d'une citation du Sutra de l'extinction, du Nehangyo, mais elle est le plus souvent rapportée comme des propos de Tendai Daishi. Nous remarquons aussi qu'elle se situe encore dans un contexte expédientiel sur les Hoben, donc c'est la dernière citation qui est, d'où est tirée cette citation. Il convient de savoir que la variété des doctrines orales, qu'elles soient voilées ou claires, circonstancielles ou réelles, constituent toutes des nas et collets. Vous voyez le dernier caractère, sente, qu'on pourrait sentote, n'est-ce pas, les deux derniers caractères de la citation, qu'on peut lire par ue et wana, qui veut dire donc les nas pour attraper les lièvres et les collets pour attraper les lièvres et les nas pour les poissons. Donc, c'est en remettant la citation de Pochuyi dans la perspective des sentences du Sutra du Lotus, Eisai ne fait que prolonger le mouvement qui prend sa source dans la série elle-même, avec la citation de la somme de contemplation qui colorie l'ensemble de l'enchaînement. Donc, après ces deux citations d'ordre général et pour ainsi dire programmatique, celles qui suivent nous ramènent au plus concret de la pratique bouddhique, de la vie monastique, mais aussi des buts auxquels aspirent ceux qui s'y adonnent. Et pour commencer, les moines. La troisième citation nous présente un modèle de moine, donc. Elle est tirée d'un huitain de Pochuyi, un huitain qui est le premier d'une série de cinq poèmes adressés à cinq moines différents. Celui-ci est destiné à un religieux du nom de Chinyo, qui avait présidé à la cérémonie des huit préceptes conférés aux laïcs, Haisaikai. Je n'entre pas dans les détails. C'est des préceptes que Pochuyi renouvela chaque année. Il reçut à chaque fois le renouvellement de ces préceptes qui donnent à des laïcs, à des non-moines, n'est-ce pas, la possibilité de faire une conduite en quelque sorte proche de la conduite religieuse, donc presque de la conduite de Bouddha, mais à leur niveau. Nous ne donnerons que ce distique qui représente bien l'ensemble du poème, n'est-ce pas. Voici ce distique. Un germe d'éveil d'il y a des centaines de milliers de myriades d'âges cosmiques. Une forêt de mérite de 83 ans. Le poète contraste ici l'immense longueur des pratiques de Bouddha accumulées au cours des âges cosmiques, Go, n'est-ce pas, le sanskrit Kalpa. Cette œuvre de Bouddha que décrit le Sutra du Lotus et qui s'étend sur des durées inconcevables au cours desquelles le Bouddha se consacre au salut des êtres tout en œuvrant à façonner sa terre de Bouddha. Il la contraste à la brièveté de la vie humaine du moine, qui est pourtant fort longue, au cours de laquelle les mérites qu'il a accumulés ont foisonné en forêt pour son entourage, qui bénéficie de son action salvifique, digne d'un bodhisattva. C'est donc bien encore Butsuji, au sens d'œuvre de Bouddha, qui est le sujet de ces citations. Mais elle est cette fois concrétisée en une personne, le vieux moine qui est une sorte de guide spirituel pour le poète. J'ajoute que dans la série des dix actes de mal, on reviendra à ça tout à l'heure, n'est-ce pas ? Donc vous allez voir pourquoi, parce qu'il y a l'introduction d'un terme qui nous intéresse. Donc dans cette longue série de 17 citations, nous n'avons que ces trois premières qui soient tirées des sources chinoises. Nous avons vu lesquelles. Nous avons après cela 10 citations sino-japonaises de poèmes de style chinois écrits par des lettrés japonais. Nous y trouvons développée une vision de l'œuvre de Bouddha à tous les niveaux de l'être. Mais nous verrons que l'aspect rituel en est de loin le moins bien représenté, malgré les nombreuses références à la vie monastique. La quatrième citation, et la première sino-japonaise, donc, est de Yoshishige no Yasutane, mort en 1002. Que nous avons déjà rencontré, auteur entre autres du Chiteiki, le prototype, dit-on souvent, du Hojoki, n'est-ce pas, qui est un poète de style chinois reconnu et qui eut pour maître Sugawara no Fumitoki. Nous n'avons pas le reste du poème, s'il y en a un, D'après Essai, il pourrait ne s'agir que de ces seuls vers qui ornaient le mur d'un ermitage. Ils reflètent une confiance naïve en le vœu du Bouddha Amida, à moins qu'il ne soit teinté d'un léger humour, ce qui est peu probable d'après l'idée que nous pouvons nous faire de Yasutane, par exemple dans l'anecdote qui suivra tout à l'heure. Voici en tout cas ces vers. « Des terres de Bouddha des dix orients, c'est en celle de l'ouest que je mets mon espoir. Parmi les 9 degrés du trône de Lotus, même le degré inférieur me sera bien assez. » La terre de l'ouest, évidemment, c'est la terre pure d'Amida, n'est-ce pas ? Saihogokuraku. Essai remarque que chacun de ces 9 degrés de proximité au Bouddha Amida, n'est-ce pas, les kuhons, étant irréversible, celui qui y renaît ne risque plus de retomber dans des voies inférieures, ce qui fait que même le degré le plus bas est gage d'une délivrance éternelle. Il est bien évident que le vœu d'Amida d'accueillir en sa terre pure tous ceux qui auront invoqué son nom fait partie de l'œuvre de Bouddha. Il n'est pas besoin de souligner que nous sommes ici dans l'amidisme le plus pur. Cette idée est prolongée dans la citation de style chinois qui est suivante, qui est l'œuvre du prince impérial Tomohira, mort en 1009, l'un des fils de l'empereur Murakami. Dès sa plus tendre enfance, il eut pour maître Yoshishige no Yasutane. Ce n'est donc pas un hasard qu'il vienne ici à sa suite. Nous allons voir aussi après comment l'enchaînement des auteurs est intéressant. On sait aussi qu'il entretint des relations littéraires avec Kinto, allant jusqu'à polémiquer avec lui à propos des poètes anciens. Il mérite d'être signalé que nous avons de lui un opuscule sur les citations de textes non bouddhiques dans le commentaire de Tannen de la Somme de Contemplation. Donc il s'est intéressé de façon approfondie au Makashikan qui ouvre cette série. Donc Tendai et Amidisme, ce sont deux des composantes essentielles du bouddhisme de Heian, avec aussi l'ésotérisme, le Shingon, n'est-ce pas, mais qui n'est pas représenté ni dans cette série, ni d'ailleurs dans l'ensemble du Wakan Loeshu. Il n'y a que très peu de poèmes qui relèvent directement de l'ésotérisme. C'est très intéressant. Et on voit ici dans cette série que tout tourne autour du Tendai d'une part et de l'amédisme de l'autre. La citation est tirée d'un éloge, saint, que vous avez ici, qui accompagnait donc probablement une peinture. Il s'agit, selon les titres, qui diffèrent, n'est-ce pas, de manuscrit à l'autre, de l'éloge d'un temple appelé Gokurakuji, qui n'est bien sûr pas celui de Kamakura, puisqu'il est bien postérieur, ou plus probablement d'un éloge de la terre bienheureuse de l'Ouest, Saiho Gokuraku no San, qui est le titre sous lequel le poème est recueilli dans le Honshō Monzui. Le poète y expose son idée de l'harmonisation du Tendai et de la terre pure. Je vous le donne ici entre parenthèses, en quelque sorte. Les 4 terres ne font pas 2 avec la terre bienheureuse. Les 3 corps sont le seul Amida. Je n'entre pas dans les détails parce que nous n'avons pas le temps. Les 4 terres, c'est un dogme, un guide typique de l'école Tendai, n'est-ce pas ? Donc, d'un côté, nous avons les 4 terres qui vont de notre terre phénoménale jusqu'à la terre transcendante du Bouddha, alors que le Gokuraku, le Saiho Gokuraku, le Jodo Gokuraku, est la seule terre qui ramène en soi toutes les autres. Et les trois corps du bouddhisme traditionnel se résorbent, s'harmonisent, s'intègrent le seul corps d'Amida. Et il y a aussi... vous avez ici la liste des 4 terres, n'est-ce pas ? Donc, il dit aussi que le monde de l'endurance possède une affinité, donc le Shabbat no Sekai, n'est-ce pas, notre monde, possède une affinité avec ce Bouddha éloigné, et ce Bouddha éloigné a fait un vœu sur le monde de l'endurance. Donc il y a une interaction complète entre notre monde et le monde d'Amida. Ce qui démontre une certaine conception de la réciprocité des rapports entre les deux dimensions transcendantales et humaines que l'on pourrait rapprocher des vers de Po Chuyi de tout à l'heure, sur les myriades d'éons, les myriades d'âges cosmiques et les 80 ans, 83 ans. Et voici la citation retenue par Eshu. Oui, elle est en bas, n'est-ce pas ? Vous avez tout ce qu'il vous faut pour la lire, donc je vous la traduis. « Malgré les 10 actes de mal que nous aurons commis, il nous recevra encore, plus puissant que la tempête qui balaye les nuages. » Ne fût-ce qu'une seule invocation que nous lui aurons faite. Il nous répondra, comparable à l'océan qui absorbe la moindre goutte de rosée. Nous aurons tous remarqué la présence du caractère, la présence répétée du caractère ke, vous voyez, dans les deux premiers vers, les vers de gauche, en quelque sorte. Au milieu, vous avez le caractère ke que nous avons vu tout à l'heure, inséré dans la citation du Makashikan afin de la transformer en vers. À cela s'ajoute la reprise du caractère tatou, n'est-ce pas, la métaphore, qui se trouve dans la première citation et dont nous voyons qu'il est, il est au début de la seconde partie du bas, donc. Donc, qui se trouve, et nous voyons qu'il est l'une des marques principales, encore une fois, de l'œuvre du Bouddha, les paraboles et la métaphore. Le butsuji, c'est la métaphore, pourrait-on dire. Plus encore que les 10 mauvaises actions et l'affinité entre les êtres et le Bouddha, c'est la mention des métaphores qui justifie le choix de cette citation. Et remarquez que je ne vais pas vous donner la liste des 10 mauvaises actions qu'il faut éviter, n'est-ce pas ? Donc, ces 10 mauvaises actions que l'on promet solennellement d'éviter lorsque l'on prend ces cérémonies laïques auxquelles Pochi faisait allusion tout à l'heure. Vous avez parmi les... Évidemment, c'est ne pas tuer, ne pas voler, etc., etc. Mais vous avez ce qui est intéressant, c'est qu'elles sont 10, sont divisées en 3 groupes, donc 3, ce n'est pas divisible par 3, et le groupe le plus important de 4 interdictions porte justement sur les actes de langage, n'est-ce pas, qui sont les propos erronés, les propos mensongers, ryōzetsu, n'est-ce pas, propos erronés, propos mensongers, d'ailleurs consciemment, et les haku, n'est-ce pas, la calomnie. Et le dernier, c'est kigo, justement, kigo, les propos spécieux. C'est ce terme qui est dans la citation de Pochui. Donc, le fragment qui vient à présent est tiré d'une proclamation de vœux, gammon, troisième ligne, n'est-ce pas ? Et il faut la voir, à mon avis, en relation directe avec la citation qui la suivra. Bien que nous le verrons, elles sont fortes différentes à première vue, en ce que l'une comme l'autre, elles sont quand même intéressantes, elles sont quand même liées, en ce que l'une comme l'autre nous parle d'un mode de présence du Bouddha au monde sous forme de représentation. Il s'agit donc de l'œuvre de Bouddha vue cette fois du côté des hommes et de leur propension à avoir recours eux-mêmes à des expédients pour pallier l'absence de celui en qui ils ont pris refuge. Nous avons ici un texte de Oeno Masahira, mort en 1012, dont on se rappelle peut-être l'échange de Waka avec sa femme, la grande poétesse Akazome Emon, sur le lait de la nourrice et l'âme japonaise. Je n'y reviens pas. Il fut l'un des grands lettrés de son temps, Dr. Eslet, donc Monjo Hakase, dont nous avons la chance de conserver un recueil de poèmes de style chinois, avec aussi un nombre considérable de pièces insérées dans le Honshō Monzui. Je ne reviens pas, ce sont des noms qui vous sont familiers maintenant, sans compter une douzaine de poèmes japonais dans les anthologies impériales. Du long texte de son Gammon, rédigé à l'occasion d'une conférence sur les 5 périodes, Gojiko, organisée par un religieux du Tendai du nom de Ninko, que vous avez tous là ici, n'est-ce pas ? Donc, qui serait né vers 940 et mort après 1023, ce qui fait une vie assez longue, dont le grand lettré que fut Masahira se faisait le porte-parole. Bernard Franck a montré que, contrairement à ce qui est souvent répété, Ninko ne pouvait être le fils de Minamoto no Toru, les dates ne concordent pas. Mais c'est Minamoto no Toru, donc, qui était le fondateur du Kawara no In, qui est le cadre de toute cette citation, résidence luxueuse, dont nous avons vu qu'elle fut finalement transformée en temple afin d'apaiser les esprits qui la hantaient. Ninko était disciple de l'illustre religieux Ryōgen, que l'on connaît sous le titre posthume de Jie Dai Sojo, mais aussi qui est peut-être plus connu de tout le monde ici, sous l'aspect démoniaque de Ganzan Daishi, l'un des artisans de l'essor des disputations scolastiques du Tendai, sur la forme des Kogaku Ryūgin. Bien sûr, je suis obligé de passer là-dessus très rapidement. Cette cérémonie est placée sous le signe d'un dogme fondamental du sutra du Tendai, de l'école Tendai, qui est les 5 périodes. Et elle est en réalité ainsi que nous l'apprenons de la proclamation de vœux, non, puisque cinq périodes, ça évoque tout de suite le Tendai, n'est-ce pas ? Elle est en réalité placée sous la double protection du Bouddha Shakyamuni, donc le Bouddha principal du Tendai, et du Bouddha Amida. Et les cinq périodes qui sont... je passe là-dessus très rapidement. Le Tendai, pour expliquer, faire une grille d'explication des enseignements du Bouddha, qui se déroule sur un très grand nombre de sutras qui sont tous irréductibles les uns aux autres, a comparé le déploiement de la prédication du Bouddha au soleil qui monte, n'est-ce pas, au soleil qui surgit à l'aube et qui va jusqu'à midi. Alors, vous comprenez bien que le soleil qui surgit à l'aube, c'est le début de la prédication du Bouddha lorsqu'il a 30 ans, et lorsqu'il arrive à midi, c'est le Sutra du Lotus, la révélation parfaite, totale, le Sutra du Lotus qui, étant au plus haut, illumine les vallées les plus profondes. Il n'y a plus rien après dans le Tendai. Ça s'arrête là. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est que, nous ne le verrons pas ici, mais c'est que dans ce texte, justement, le soleil continue sa route et descend vers l'ouest. Et l'ouest, c'est évidemment le Saiho Gokudaku, c'est-à-dire la terre pure du Bouddha Amida. Si bien que vous avez d'un côté le Tendai, jusqu'à midi, et le soir, l'amidisme. C'est tout à fait typique, justement, de cette synthèse du Tendai et de l'amidisme que l'on voit à l'époque de Heian. Et évidemment, Jien, dont nous parlons souvent, n'est-ce pas, qui lui est du début de l'époque de Kamakura, est l'un des grands représentants de cette tendance. Donc, l'important dans cette cérémonie, qui se déroula en 991 au Kawaranoin, donc, est que Ninko, le moine Ninko, y fit installer une statue du Bouddha Shakyamuni, de la taille canonique de 16 pieds, n'est-ce pas, Jōroku, Ichijō Rokushaku. Ichijō, ça fait 10 pieds, et Rokushaku, donc 16 pieds, dans une chapelle provisoire. On permettra, en hommage à mon maître Bernard Franck, de reproduire ici la traduction qu'il a faite de la citation retenue dans le Dōeishū, puisqu'il est assez rare que j'ai l'occasion de revenir sur des textes qu'il avait déjà étudiés. Voici la traduction de Bernard Franck de ce texte. « Jadis, durant les 90 jours de la retraite chez les dieux 33, sculptant le santal rouge, on y reproduisit la forme vénérée. Aujourd'hui, 2000 ans après l'extinction au bord de la rivière Ajiravati, polissant l'or violacé, nous saluons les deux pieds du maître. » Selon la chronologie bouddhique japonaise, l'entrée du Bouddha en extinction avait eu lieu à Kushinagara en 949 avant notre ère, ce qui faisait que les deux millénaires auraient été complètement écoulés 60 ans après cette cérémonie, en 1051. Vous savez que c'est le 1151 ou 1052, c'est l'entrée traditionnelle dans le Mappo, dans l'ère du Mappo, de la fin de la loi au Japon. Et c'est à cette occasion qu'a été construit, par exemple, le Byodo-in à Uji, près de Kyoto. Mais l'important, donc, malgré cette approximation, est que le texte souligne la continuité de cette statue avec la première représentation du Bouddha, qui, ainsi que le rappelle Eisai, fut faite par le roi Udayana, Udenno, n'est-ce pas, il y a plusieurs façons de l'écrire, pendant l'intervalle où Shakyamuni, alors âgé de 37 ans, était monté au ciel des dieux satisfaits, Tosotsuten, n'est-ce pas, des Tushita, afin d'exposer la loi à sa mère, en reconnaissance des bienfaits qu'il avait reçus d'elle. Se désolant de l'absence de l'éveillé, le roi y avait remédié grâce à l'expédient qu'était une statue. C'est donc ce que refait Ninko. Le texte dit en substance que les Bouddhas des 10 Orients s'étant retirés, les êtres de ce monde d'endurance, le Shabano Sekai, sont harcelés par les causes de mauvais actes menant au feu, au sang, aux armes. Comment pourrait-il entendre le nom des trois joyaux, le Bouddha, le Dharma et la communauté bouddhique ? Ils ont besoin d'un capitaine sur l'océan des existences, d'un médecin dans les affres des passions, mais ils n'ont personne à qui s'adresser. En se fondant sur la parole d'un sutra, selon lequel, ce que je vous donne en bas, qui, la dernière ligne, n'est-ce pas, qui aura entendu le nom de l'ainsi venu Shakyamuni sera désormais un être d'éveil, quand bien même il n'aurait pas encore déployé la pensée d'éveil, ils ont donc confectionné cette statue. Ce poème marque donc un tournant dans la présentation de l'œuvre de Bouddha, Butsuji, celui où les êtres n'ont plus directement affaire à lui, mais où ils doivent se le représenter et œuvrer comme ils peuvent en vue de leur salut. Aussitôt après cette évocation d'une sorte de succès d'année de Bouddha en corps d'adaptation, de Ojin, n'est-ce pas, de la taille définie dans les Écritures, Choroku, une autre citation vient donner... Oui, voici les termes, n'est-ce pas ? Une autre citation vient donner une autre vision de ce que les êtres peuvent faire, à une dimension plus humble encore. Mais là aussi, ces activités sont justifiées par un sutra, et le plus éminent, puisqu'il s'agit d'un fameux passage du Sutra du Lotus au chapitre des expédients. Dans la longue suite de stances qui se termine ce chapitre, le Bouddha reprend d'une part son affirmation, celle qui marque cette série du Loeishu, ainsi que nous l'avons vu, selon laquelle, je vous le donne ici, les vénérés du monde, par une variété de relations et de paraboles, par la puissance de leurs expédients sans nombre, ont exposé les enseignements en leurs divers aspects, la première citation. Puis, il aborde ce que peuvent faire les êtres une fois que le Bouddha a disparu. Et cette fois, nous voyons que ce qui est dit dans ce sutra du grand véhicule est fort proche de la citation précédente. Je vous le dis ici, je vous la donne ici, la deuxième citation, n'est-ce pas ? Si, dans les landes désertes, ils ont entassé de la terre pour faire des chapelles à l'éveillé, voire dans leurs jeux d'enfants, faites en sable des pagodes à l'éveillé. De tels gens ont tous désormais réalisé la voie d'éveillé. Remarquons en passant la mention des langues, les landes désertes, n'est-ce pas, Koya ici, qui évoque la vie érémitique, thème constamment répété du Loeishu. Le Bouddha revient en détail un peu plus loin sur la même idée, dernière citation que je vous donne ici. Ceux qui, même en leur jeu d'enfant, que ce soit avec des brins d'herbe, des baguettes, des pinceaux, avec le doigt ou l'ongle, ont dessiné l'image de l'éveillé. De tels gens ont graduellement accumulé les mérites, parfait la pensée de grande compassion, et ont tous désormais réalisé la voie de l'éveillé. Le texte ira beaucoup plus loin, bien que nous ne puissions nous y attarder. Il est d'ailleurs fort important pour l'histoire de la pensée bouddhique, car nous y voyons clairement et explicitement affirmé ce que l'on présentera bien plus tard comme des enseignements nouveaux et révolutionnaires, en particulier l'idée selon laquelle il aura suffi de faire offrande, ne serait-ce que d'une fleur ou d'une image, et presque sans y penser, n'est-ce pas ? Le Sutra du Lotus dit « d'une pensée distraite ou troublée, sanranjin », ou de même, toujours sans y penser, on aura proclamé une fois « Shitotabi namu butsu otonaete », on aura proclamé une seule fois « Hommage à l'éveillé », et l'on aura désormais réalisé la voie de Bouddha. Il est clair que nous sommes dans la même lignée de pensée que le sutra précédent, passant toutefois du stade de Bodhisattva à celui de Bouddha. Nous sommes donc bien toujours dans l'œuvre de Bouddha, mais vu cette fois du côté des êtres, dans toute leur impuissance, mais aussi dans toute la ferveur de leur foi. C'est ce qui fait l'objet de cette citation de Yoshishige dans Yasutane. Ce fervent bouddhiste que nous venons de rencontrer avec son disciple princier, auteur aussi, il est bon de l'ajouter, de notices, de Yasutane, n'est-ce pas, a fait ses notices sur les Japonais qui sont parvenus à la renaissance en la terre bienheureuse. Nihon Ojogokurakuki. Il est aussi présent, plus que l'on ne pense, d'ailleurs, dans le texte qui précède il est vraiment présent, non seulement hors texte, mais disons, dans l'anecdote qui entoure ces textes, puisque dans le texte qui précède, et dont Masashira était l'auteur, donc ce même Yasutane aurait donné une grande claque dans le dos de Masashira pour lui reprocher de s'être trop laissé aller au plaisir des lettres dans son texte, ce qui aurait perturbé sa sérénité mentale. Vous voyez que c'était quelqu'un de tout à fait sérieux. Faut-il voir d'ailleurs dans cette juxtaposition une nouvelle facétie de Kinto, ou bien une tentative de réconciliation posthume des deux poètes? Toujours est-il que cette citation est tirée d'une préface faite par Yasutane à un poème composé lors d'une assemblée d'exhortations à l'étude, Kangakue, sur laquelle je ne reviens pas, précisément sur le passage scripturaire « Faire en sable des pagodes d'éveillés », ce que vous avez au titre qui est donné dans la dernière ligne. Voici donc la citation. « Lavées par les vagues, elles vont s'effacer, sous-entendu les pagodes, mais montées sur son cheval de bois, l'enfant ne les regarde plus. » l'enfant est sous-entendu ici. Battues par la pluie, toujours les pagodes, elles s'effondreront facilement. Mais tout au combat de coq, il les aura de longtemps oubliées. Je n'entre pas dans l'exégèse de Kaike, n'est-ce pas, le poulet à la moutarde, terme pour lequel Esai propose deux explications. Et j'ai choisi celle de la majorité, c'est-à-dire il semble que l'on enduisait les ailes des coqs de combat de farine de moutarde. Ici, bon, c'est non seulement Esai, mais la plupart des commentateurs modernes reprennent cela et il n'y a pas de raison de s'y opposer. Donc, Yastané renchérit ici sur la pensée distraite et troublée. Vous voyez, c'est vraiment le San Nanjin de tout à l'heure, du sutra. L'enfant ou l'homme enfantin aura depuis longtemps oublié sa pagode, que les mérites qu'il aura presque involontairement constitués lui resteront et le mèneront un jour à l'éveil. Le reste de cette préface mériterait aussi bien d'être lu. Et nous y verrions Yoshishige no Yasutane occupé tout autant de sa foi aministe que de sa valeur, sa ferveur lotusienne. Je vous donne d'ailleurs ce texte ici qui nous fera une belle conclusion. S'il est à présent question de faire pénétrer les êtres dans le savoir et la vue de Bouddha, Puchiken encore, rien ne saurait exceller le sutra du lotus. C'est pourquoi nous exalterons nos cœurs et produirons la pensée d'éveil en joignant les paumes et en exposant ses sentences et ses stances, supprimant ainsi les innombrables obstacles des péchés. Si c'est pour renaître dans le monde bienheureux, rien ne dépassera le Bouddha Amida. C'est pourquoi nous ouvrirons la bouche et élèverons la voix pour réciter son nom. Ce passage nous ramène directement à la citation du prince Tomohira que nous avons vue plus haut, qui mettait aussi en harmonie les deux doctrines. Or, ce prince avait eu pour maître Yasutane, je le rappelle. Nous remarquerons encore la référence au Butchiken, n'est-ce pas, qui définit l'unique grande œuvre de Bouddha. Ici encore, le hors-texte nous livre un message subliminal que nous ne pouvons négliger. Comme vous le voyez, la matière de cette série est si riche que nous ne pouvons en faire le survol, aussi superficiel soit-il, en une seule heure. Nous la terminerons donc au prochain cours et tâcherons d'aborder aussi la série sur le retrait du monde, si le temps nous en est laissé. Je vous remercie pour aujourd'hui.